L'Ensemble des Muses, une émission culturelle de Radio Sud, élaborée et présentée par Claudie, accompagnée de Nathan à la technique. Cette nouvelle émission vous proposera l'histoire sur les grands musées et aussi les plus petits, qui préservent l'histoire, la culture, l'héritage de notre patrimoine. Allons cette semaine en Alsace, sur les traces d'August Bartholdy, sculpteur né à Colmar, un artiste qui a su exporter le génie alsacien jusqu'à New York avec la Statue de la Liberté. Pour vous raconter son histoire, je vous emmène dans le cœur du vieux Colmar pour visiter le musée Bartholdy, qui se situe dans sa maison natale. Répartie sur 3 étages, la maison a conservé la quasi-totalité de l'œuvre de l'artiste. Pour en savoir plus, accompagnez-moi sur le parcours exceptionnel de Bartholdy, qui a donné forme à des symboles universels. Pour mon accompagnement musical cette semaine, un chanteur, David Hallyday, avec son album « J'ai quelque chose à vous dire », album qui a servi à l'exutoire au chanteur à la mort de son père.
J'ai quelque chose à vous dire, mais qui n'a plus d'importance. À toujours se retenir, on laisse la place au silence. J'ai dû manquer de courage ou laisser passer ma chance. On peut rendre tous les hommages, ça ne comble pas l'absence. C'était avant, plus maintenant. Les mots ne riment à plus grand chose. Plus maintenant, c'était avant qu'il fallait dire ce chose à vous dire, mais qui n'a plus d'importance. À toujours vouloir s'enfuir, on se retrouve en errance. Pour un jour s'apercevoir qu'on n'a pas vu l'évidence et qu'il est déjà trop tard.
Mais l'important, c'est maintenant, à mes enfants, on quiert. J'ai quelque chose à vous dire, mais ça n'a plus d'importance. Non, ça n'a plus d'importance.
Alors, voici l'histoire de Bartholdi, le sculpteur. Imaginez un instant, l'un des monuments les plus célèbres de la planète, le symbole absolu des États-Unis, aurait dû porter le voile et éclairer le canal de Suez en Égypte. Oui, vous avez bien entendu. Pour comprendre cette folle histoire, pas besoin de prendre un billet pour New York, il suffit de poser nos valises en Alsace, à Colmar, puis précisément aux 30 rues des Marchands, dans la maison natale d'un génie un peu mégalo et follement patriote, Auguste Bartholdi. C'est aujourd'hui un musée fascinant et c'est notre escale du jour. En 1855, Bartholdi voyage en Égypte. Il prend une claque visuelle devant les pyramides et les statues géantes. Il veut faire la même chose. Il dessine un phare monumental pour le canal de Suez. Une paysanne égyptienne, géante, tenant une torche. Le nom du projet, l'Égypte éclairant l'Orient. Sauf que le gouvernement égyptien est ruiné et a dit non. Qu'à cela ne tienne, quelques années plus tard, Bartholdi ressort ses cartons, retravaille les traits et propose le projet aux Américains. La paysanne égyptienne devient la liberté éclairant le monde, le plus grand recyclage de l'histoire, de l'art, la statue de la liberté.
Fin d'un mauvais jour.
toi je pardonne.
La maison natale d'Auguste Bartholdi et son histoire. L'historique du bâtiment. Édifiée au XVe siècle, cette demeure a été remaniée au XVIIIe, puis embellie par Bartholdi lui-même à la fin du XIXe. Au milieu du XIXe siècle, la demeure était la propriété de Jean-François Bruges, conseiller au Conseil souverain d'Alsace, auquel on attribue la transformation en hôtel particulier des bâtiments antérieurs. En 1749, le père de Jean-François Bruges acheta cette demeure, acquise à la fin du XVIIIe siècle par ses grands-parents, Auguste Bartholdi. L'immeuble resta propriétaire familial jusqu'en 1907. Le 2 août 1834, Auguste Bartholdi est né dans cet hôtel particulier. Le 25 juin 1907, 3 ans après le décès d'Auguste Bartholdi, son épouse, Jeanne-Émilie, lègue la maison natale au sculpteur de la ville de Colmar, avec tout son contenu. Elle décède en 1914 et en 1922, la maison natale devient le musée Bartholdi. La visite du musée. Le visiteur pénètre dans la cour par un passage couvert. Au centre de la cour se dressent les grands soutiens du monde, statues qu'on reparlera un petit peu plus tard. À droite de la cour s'ouvre l'entrée principale du musée ornée d'une porte Renaissance. Au fond de la cour, une porte du XVIIe provient de la rue Vauban. Au sud de la cour du musée, les anciennes écuries. Entrée décorée d'un encadrement de porte fin XVIIe au début du XVIIIe en réemploi. L'entrée principale de la maison est ornée d'une porte Renaissance conçue par Bartholdi avec des éléments du XVIIe, rapportée et installée dans la seconde moitié du XIXe. Lors de travaux de réaménagement de la demeure, la porte est surmontée de 3 sculptures en béton moulé, œuvre de Bartholdi représentant 2 lions héraldiques, flanquant un bélier à attitude humaine. Au portail de l'écurie, au sud de la cour du musée, s'élèvent les anciennes écuries à l'origine du plain-pied, dont l'excès aujourd'hui condamné est rehaussé d'un encadrement de porte monumentale, de la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe. Non content d'enjoliver ainsi le bâtiment, Bartholdi, lors de ses grands travaux de surmaniement, fit surélever celui-ci d'une galerie qui relie les ailes est et ouest. Au-dessus de la porte, le doux portrait est signé d'Auguste Rubin, disciple et ami de Bartholdi, et daté de l'année 1905. Un médaillon de bronze, identique, orne la tombe des époux Bartholdi au cimetière Montparnasse à Paris.
Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. puisque demain je ne pourrai plus rire. Loin de ce monde pour de bon, je voudrais qu'on me donne un dernier soupir pour juste sentir des saisons ce que je vous. C'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit. J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les yeux pour ne plus être l'ombre de moi-même. Que je t'aime avant de faire mes adieux, ce que je vous laisse, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière. Je n'ai jamais dit ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, c'est juste un dernier cri avant le pas.
La statue Les grands soutiens du monde. Exposée au Salon de Paris en 1902, le groupe en bronze intitulé Les grands soutiens du monde fut installé dans la cour du musée Bartholdi en 1909, sur proposition d'Auguste Rubin, un disciple d'Auguste Bartholdi. À l'intérieur du musée, le cadre de vie a été imaginé en fonction d'inventaire détaillant le mobilier et les objets en l'absence de photos. Alors, la salle à manger de l'hôtel particulier des époux Bartholdi, rue d'Azas à Paris, a été particulièrement reconstituée dans la maison natale du sculpteur. Auguste Bartholdi avait eu la fantaisie d'orner la salle à manger d'un plafond à caissons contenant des porcelaines de Chine. Il avait adopté les goûts de son époque. En 1840, sous le roi Louis Philippot au château de Fontainebleau, c'est une galerie des assiettes qui est aménagée.
Que deviennent les héros qu'on suivait hier? Avec des idéaux dont ils étaient fiers. Pour une couleur de peau brisait les frontières. Sans violence ni drapeau chantaient leur colère. Car le nerf de la guerre.
leurs frères. Pour vaincre les fléaux, monter des barrières. Pour qu'on soit tous égaux, ne pouvait se taire.
Le cabinet de travail. Dans son testament, rédigé en 1902, Auguste Bartholdi précise « Je lègue à la ville les meubles de mon bureau et la cheminée, exécutés par moi qui peut se démonter. » Si cette date de 1858, le soleil renvoie à l'enseigne des Sondac, ancêtre colmarien de Bartholdi. La cheminée est couronnée d'un écusson aux armes de Colmar et de l'inscription. La phrase de Bartholdi associe là, à ce moment-là, ses ancêtres à la famille de Sondé, c'est-à-dire l'étymologie du soleil. Et la phrase est « Ciel bleu au-dessus de nous ». Alors, il y a aussi le salon de musique. Enfant, Auguste Bartholdi a appris le violon et son frère Charles le violoncelle. Madame Bartholdi les accompagnait au piano. Le piano présent dans le salon de musique est un piano à cordes parallèles, piano emblématique de l'époque romantique. Il est sorti des ateliers Erard à Paris en novembre 1837 et livré la même année à Colmar.
Sans histoire, on avance d'abord. Sans regret, ni aucun remords, on avance encore. Même sans faire de sa vie un rêve, on ne change pas son sort.
Votre chemin, il ne vous lâche pas jusqu'à la fin. instant.
Revenons à la statue « Les grands soutiens du monde », une des œuvres du sculpteur. La statue « Les grands soutiens du monde » est un groupe monumental en bronze, réalisé en 1902 par le célèbre sculpteur français Auguste Bartholdi. Cette œuvre allégorique est visible au cœur du centre historique de Colmar, installée de façon permanente depuis 1909 au centre de la cour intérieure de la maison natale de l'artiste devenu le musée Bartholdi. Symbolique de l'œuvre, la sculpture se compose de trois personnages distincts. Des Atlantes, personnages mythiques de l'Atlantide, qui unissent leurs forces pour soutenir le globe terrestre. Chaque figure incarne une valeur fondamentale de la société selon l'artiste. Il y a d'abord le travail, représenté par un homme d'âge mûr. Il tient des livres pour le travail intellectuel, ainsi qu'un marteau et une roue d'engrenage pour le travail manuel. Le patriotisme, représenté par un jeune homme vigoureux. Il est équipé d'un bouclier, brandit un étendard et s'apprête à dégainer son épée. La justice, représentée par une figure féminine qui tient une balance dans ses mains. Grand soutien du monde met en scène trois personnages allégoriques. La justice, le patriotisme et le travail. Soutenant un globe terrestre, cette œuvre cache des détails très symboliques et humoristiques. Le sculpteur colmarien a glissé plusieurs messages personnels à travers cette œuvre. Un hommage à sa mère. Le visage de l'allégorie de la justice est inspiré des traits de Charlotte Bartholdi, la mère du sculpteur qui a joué un rôle central dans sa vie. Le clin d'œil de la franc-maçonnerie. Très engagé, Bartholdi a représenté le travailleur avec un marteau et une roue dentée, des symboles maçonniques classiques. Un globe incomplet. Lors de sa première présentation au Salon de Paris en 1902, la sphère représentait le monde visible, illustrant l'idée que ces trois valeurs universelles soutiennent la Terre entière. Un retour aux sources. Après avoir été exposée à Paris, la statue est installée en 1909 au centre de la cour intérieure de la maison natale de Bartholdi, devenue par la suite son musée officiel.
Dans chaque histoire existe un bon cœur. Il entend les peurs, blessures et douleurs. Et je suis reconnaissant, car je ne suis plus seul. Je vis entouré de ceux que j'aime. Nous n'avons rien à craindre, des portes se ferment et d'autres en moi s'ouvrent grand, car je ne suis pas seul. Seul au monde, non je ne suis pas seul, sans toi qui m'as laissé pourtant. Seul au monde, non je ne suis sans toi qui m'a laissé seulement. Le plus
important. Le plus important. Dans chaque histoire se trouve une erreur. Elle m'apprend la vie, les pas d'un boxeur dont le visage est en sang. Il sait qu'il n'est pas seul. Tant que la raison parle en nous-mêmes, avec de l'esprit, avec nos problèmes, quand l'adversaire est devant, on n'est jamais tout seul. Seul au monde, non, je ne suis pas seul, sans toi qui m'as laissé pourtant. Seul au monde, non, je ne suis pas seul, sans toi qui m'as laissé seul. Important. Le plus important. Le plus important. Le plus important.
Une autre statue emblématique. La statue du Lion de Belfort, sculptée par Auguste Bartholdi pour commémorer la résistance de 1870. Le Lion de Belfort, 11 mètres de haut, 22 mètres de long, regorge d'anecdotes étonnantes. La légende tragique. Une rumeur tenace prétend que Bartholdi se serait suicidé après s'être rendu compte qu'il avait oublié la langue du lion. C'est totalement faux. Le fauve possède bien une langue, vérifiée lors de sa restauration en 2019, et Bartholdi est mort de vieillesse. À Lyon mécanique, beaucoup pensent que la statue est creuse et cache une machine, comme pour la statue de la Liberté, sur laquelle travaillait le même sculpteur. En réalité, c'est un bloc massif de grès rose. Un symbole de défi. Le lion regarde vers l'ouest en direction de la France. Une légende affirme que Bartholdi, furieux de l'annexation de l'Alsace par l'Allemagne, a tourné la statue pour narguer l'ennemi. Alors, il y a aussi une armée de petits lions. Plus de 150 petites répliques en pierre sont cachées dans les rues et sur les façades de Belfort.
Sous le voile, je cherche encore ton cœur. J'ai lu ton visage, le vague, le mépris n'est pas l'état sauvage avec lequel j'ai appris. Tu peux m'empêcher de poser ma main sous son corps blessé. J'ai tout le temps de savoir enfin qu'on peut tout casser ou tout effacer. Pour tuer ceux qui s'aiment, faudrait déchirer le ciel. De tenir sa main, rien ne peut souffler la flamme d'où je viens. Tu peux tout casser ou tout effacer. Pour tuer ceux qui s'aiment, faudrait déchirer le ciel.
Il y a aussi, dans la ville de Lyon, une fontaine, la fontaine Bartholdi. La fontaine Bartholdi, située place des Terreaux à Lyon, cache de nombreuses histoires insolites. Inaugurée en 1892. Un symbole anti-Rhône, elle représente en réalité la Garonne et ses quatre affluents. Elle a été commandée en 1857 par la ville de Bordeaux, qui l'a finalement trouvée trop chère, permettant à Lyon de l'acquérir en 1889 pour l'exposition universelle. Des mensurations impressionnantes. L'ensemble pèse 21 tonnes pour 9 mètres d'envergure et 15 mètres de diamètre. Elle est entièrement fabriquée en plomb, martelée sur une armature en fer. Une restauration délicate. Lors de son grand dépoussiérage à Paris de 2016 à 2017, la peau en plomb des chevaux, près de 2 tonnes chacun, était tellement fragile que la structure a nécessité une attention particulière de la fonderie de Coubertin. Les restaurateurs ont fait aussi une découverte surprenante à l'intérieur de la structure. Pour stabiliser le géant de plomb de 21 tonnes, Bartholdi avait installé une armure interne en fer. Avec le temps et l'humidité constante, cette structure en fer a totalement rouillé, a gonflé et a fini par littéralement exploser à l'intérieur avant les travaux. Les statues ne tenaient plus debout, que par miracle. Les experts ont confirmé que si la rénovation avait été repoussée de quelques mois, la fontaine s'en serait complètement effondrée sur elle-même, détruisant à jamais le chef-d'œuvre de Bartholdi.
Il suffirait d'un pas pour te laisser seul derrière moi et passer cette porte. Il suffirait d'un pas pour me décrocher de tes bras comme une feuille morte. Mais ce soir, je sais qu'une moitié de moi te désire en entier quand l'autre se débat. Mais ce soir, je sais qu'une moitié de moi est prête à s'envoler quand l'autre se débat. Mauvais choix, il suffirait d'un cette fois à refermer la porte, m'allonger contre toi, goûter la douceur de ta soie, que la nuit nous emporte.
Gardé pour la fin, son plus grand chef-d'œuvre. Et quelques anecdotes. La statue de la liberté. La statue de la liberté regorge d'histoires insolites, à commencer par sa couleur. Elle était initialement d'un rouge-orange brillant. Conçue entièrement en cuivre brut, elle a mis près de 30 ans à s'oxyder, naturellement, pour obtenir sa teinte vert de gris actuelle. L'œuvre a été entièrement construite à Paris, puis démonté en 350 pièces réparties dans 214 caisses. Durant son voyage à bord du navire français Isère, le bâtiment a traversé une tempête si violente dans l'Atlantique qu'il a failli sombrer avec la statue. Depuis 2016, le public ne peut plus monter dans la torche. Pendant la Première Guerre mondiale, des saboteurs allemands ont orchestré l'explosion d'un dépôt de munitions à proximité. Ça s'appelait Black Tom Explosion. Les éclats ont endommagé le bras de la statue, rendant l'accès définitivement dangereux. Une centaine de rivets ont sauté de la structure interne et des éclats d'obus incandescents ont criblé le corps de la statue. Alors, il y a aussi une anecdote de Thomas Edison voulant la faire parler. l'inventeur américain a sérieusement proposé d'installer un phonographe géant à l'intérieur de la structure. Son idée était de diffuser des discours audibles à des kilomètres à la ronde, notamment jusqu'au bord et au nord de Manhattan. Le projet a finalement été rejeté. Alors aussi une cible parfaite pour la foudre. En raison de sa structure métallique, protectrice conçue par Gustave Eiffel, et de sa position isolée dans la baie, la statue est frappée environ 600 fois par an par la foudre. De plus, face au vent violent, elle est flexible. Elle peut osciller de 7 cm et sa torche de près de 12 cm. Alors, quelques mensurations. Je ne vais pas dire la chaussure parce qu'il n'y a pas de pointure qui existe là à ça. Son pied, par exemple, mesure 7,65 m. La tablette dans la main mesure 7,19 m. Son poids, 225 tonnes. La hauteur de la statue du sol à la pointe fait 92 mètres. La tête mesure 5,26 m. Son nez, 1,37 m. La largeur de son œil, 76 cm. La largeur de sa bouche, 91 cm. Le bras droit, 12,80 m. Sa main, 5 mètres. Et la couronne, à 25 fenêtres et 7 rayons. Les 7 rayons symbolisent les 7 océans du monde.
Si tu
autre histoire symbolique. Les chaînes brisées, un symbole anti-esclavagisme caché. L'idée de la statue, toujours, on parle toujours de la statue de la liberté, est née en France en 1865 sous l'impulsion d'Édouard de Laboulaye, un fervent abolitionniste, difficile à dire. Le monument devait à l'origine célébrer la fin de l'esclavage, après la guerre des sécessions américaines. Le projet initial, sur les premières maquettes de Bartholdi, la liberté brandissait des chaînes brisées directement dans ses mains. La censure politique, jugeant ce symbole trop provocateur et diviseur pour l'Amérique de l'époque, les commanditaires ont demandé de modifier le design. Bartholdi a donc remplacé les chaînes par la célèbre tablette de la Déclaration d'indépendance. Le compromis discret, refusant d'abandonner son message, le sculpteur a déplacé les chaînes et les fers brisés au pied de la statue. La liberté est représentée en train de marcher en avant, écrasant les chaînes de la servitude. Depuis, le sol, ce détail fort, est quasiment invisible, masqué par les plis de sa robe. Les modèles féminins qui inspiraient son visage. Auguste Bartholdi n'a jamais révélé publiquement l'identité de son modèle, entretenant volontairement le mystère. Deux femmes de son entourage se disputent historiquement cet honneur. Charlotte Bartholdi, sa mère, c'est l'hypothèse la plus répandue parmi les historiens. Le visage de la statue partage avec elle des traits particulièrement sévères, une mâchoire carrée et un regard d'une grande austérité. Un jour, en visitant un opéra, un ami de Bartholdi se serait exclamé en voyant une loge « C'est la statue, en fait c'est votre mère, c'est ce que l'artiste n'a jamais démenti. » Ou alors il y a Isabelle Eugénie Boyer, cette magnifique femme française, était l'épouse d'Isaac Singer, le célèbre et richissime inventeur américain de la machine à coudre. Devenue veuve à Paris, elle fréquentait la haute société et Bartholdi. Sa beauté classique, intemporelle et plus douce aurait servi à idéaliser les lignes du monument. En fin de compte, les experts s'accordent à dire que le visage est une synthèse idéale. Un mélange entre la sévérité de sa mère, les traits d'Isabelle Boyer et l'esthétique des statues de la Grèce antique.
Un jour ou l'autre, tout refait surface en mémoire. D'un jour à l'autre, les images écrivent nos histoires. Un cadeau d'anniversaire, une glace au bord de la mer. Chaque hiver, même éphémère.
s'aimait, il suffisait de se le dire.
Pour finir, retenons que le musée Bartholdi est bien plus qu'un musée. C'est un voyage au pays des géants et un magnifique hommage à la liberté. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un autre défi. Toujours sur Radio Sud 88.7 avec Claudie dans l'émission Le Temple des Muses, tous les mardis à 14h.
Reflection.